Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là.
La contestation marche pas, on peut toujours passer aux incendies.
Voilà, il y a de la grillade de bourgeois qui se prépare, faudra pas faire les étonner.
Libre Radio, www.libreradio.org, la web radio du peuple.
Genève, Maison des associations, le 23 janvier 2017. Voici le podcast de la conférence de presse du collectif Perse Frontières en vue de la manifestation du vendredi 27 janvier 2017. Première partie de 24 minutes, retour sur les luttes menées et la situation d'urgence actuelle. Deuxième partie de 35 minutes, questions-réponses. Pour la fermeture des bunkers, pour des logements dignes, pas des prisons. Contre les violences faites aux personnes en exil, le racisme et les renvois. Rendez-vous le vendredi 27 janvier 2017, 17h30, à la promenade de la Treille.
On va revenir sur les raisons de l'appel à manifestation ce vendredi 17h30, promenade de la Treille, avec un retour. Moi, je vais commencer par un petit retour historique assez rapide des différents mouvements de lutte qui nous ont conduit jusqu'à aujourd'hui à nous battre contre la politique d'immigration à Genève et en Suisse et contre les conditions d'accueil à Genève en particulier. Donc juste pour, vous avez probablement vu ça, Perse Frontières, c'est l'héritier direct du collectif No Bunker. À la suite du collectif No Bunker, le nom a changé, mais la plupart des personnes mobilisées, des collectifs mobilisés, ont poursuivi au sein de Perse Frontières qui rassemble donc plusieurs collectifs de lutte, notamment Solidarité, notamment Sans Retour, notamment le collectif Autonome D, voilà, plusieurs, et des individus. Donc, pour revenir rapidement sur cet historique, on peut dater une grosse impulsion de ces mouvements de lutte autour de la fin de l'année 2014, du début de l'année 2015, avec l'incendie des TAT et le dépôt de la lettre du collectif Stop Bunker, donc, qui était un collectif de requérants d'asile logés en abri PCI, qui avait déposé qui avait écrit une lettre à l'Hospice Général le 26 janvier 2015 qui dénonçait les conditions indignes de leur hébergement en APPCI et qui l'avait déposé lors d'un rassemblement devant l'Hospice Général le 27 janvier 2015. Ces deux moments sont des moments importants d'un très fort mouvement de soutien qui a pris énormément de forme, qui s'est battu notamment contre le renvoi d'AIOP, qui s'est battu tout du long contre l'hébergement en bunker, qui a ensuite pris énormément d'ampleur lors de l'été 2015 avec le mouvement No Bunker et l'occupation du Grutli, qui s'est poursuivi ensuite contre la fermeture de Franck Thomas cet été en 2016, avec aussi les luttes contre les renvois, les nombreux renvois qui se sont poursuivis tout au long de ces deux ans, notamment la famille Moussa. Je pense que vous avez un peu traversé, comme nous, tous ces moments assez forts de lutte durant ces deux ans. Ce sur quoi on voudrait revenir plus particulièrement sur l'accueil, c'est que très très vite, dès 2015, il y a eu un constat partagé de la part et des personnes logées en bunker et des collectifs de soutien qui accompagnaient leur lutte et des autorités du fait que ces conditions étaient indignes. On a énormément de preuves que Mauro Poggia reconnaissant que l'hébergement en bunker pose des problèmes de dignité humaine, revenant sur le fait que loger des personnes plusieurs mois dans un bunker était inacceptable. Donc voilà, toutes ces différentes citations, on peut les retrouver très facilement en faisant un rapide parcours de la presse de l'époque, notamment durant l'été 2015, où les autorités, suite à ce mouvement de lutte qui a pris une ampleur à peu près inégalée, avaient été obligés de se prononcer même par voie de presse sur ce constat. Donc partant de ce constat partagé, les collectifs de soutien et notamment de Bunker s'étaient dit, voilà, on a une promesse maintenant, sur laquelle ensuite va revenir Pablo, d'une fermeture des bunkers d'ici fin 2016. C'était ce constat et cette promesse qu'on avait en 2015. Deux ans plus tard, on en vient à maintenant assumer le fait que les autorités mènent une forme d'imposture et vont de mensonge en mensonge. Donc, on va peut-être relire exactement cette phrase. Je vais passer la parole à Pablo. Partant de ce constat partagé, vraiment de ces milliers et milliers de personnes qui ont soutenu les revendications des personnes en exil et des collectifs de soutien, jusqu'à donc ces deux promesses plus précises. Donc, je passe la parole à Pablo.
Oui, si on Donc on est une conférence de presse pour rappeler à une manifestation vendredi, et ces manifestations, elles font suite, justement, comme le disait Julien, à deux promesses non tenues de la part des autorités qui sont lourdes de sens à notre avis. On y reviendra sur l'analyse de pourquoi, mais ces deux promesses, la première s'articule le 9 août 2015 en pleine bataille nos bunkers, alors que on est, pour une série d'entre nous, à la salle du Faubourg, avec plus de 60 migrants qui refusent d'aller s'enfermer au bunker, avec ce constat partagé dont parlait Julien. Et Poggia affirme dans la presse, la tribune de Genève, le 9 août, « Si tout va bien, et sauf arrivée massive de réfugiés, on devrait pouvoir renoncer aux abris PC d'ici la fin 2016. » Aujourd'hui, on est à fin 2016 et environ 400 personnes sont encore sous terre dans le canton. Or, si on regarde, nous, de toute bonne foi, on se dit « Bon, ça veut dire qu'il y a eu une arrivée massive de réfugiés. Ça veut dire que M. Poggia n'a pas pu tenir sa promesse, et donc il y a une arrivée massive. » Donc, regardons un peu les statistiques d'arrivée massive des réfugiés. Et en fait, on se rend compte, au contraire, qu'il y a une baisse forte de l'arrivée des réfugiés en 2016. La différence, si on prend les trois premiers trimestres 2015 et les trois premiers trimestres 2016... Si on fait la différence, il y a moins 2830 personnes qui sont arrivées sur le territoire. Le chiffre, c'est 24 000 en 2015 et 21 000 en 2016. Donc on voit un recul. Et en plus, ces chiffres-là, ils sont à pondérer, puisque sur les premiers mois 2016, les arrivées étaient encore fortes. C'était la queue, si vous voulez, de la comète de l'arrivée de 2015. Et qu'en fait, les chiffres ont largement baissé dans les derniers trimestres de 2016. Donc quand on aura les chiffres officiels pour la fin 2016, en fait, on verra qu'il y a une baisse massive du nombre d'entrées sur le territoire suisse et sur le territoire genevois par conséquent. Donc en fait, on voit bien que cette première promesse qui n'est pas tenue, elle n'est pas du tout liée à une arrivée massive de réfugiés, et donc elle répond à autre chose. On y reviendra, Julien y répondra, mais elle répond à une autre problématique. Donc ça, c'est la première promesse non tenue, et elle est très très importante pour nous, c'est celle qui a guidé tous nos combats, parce qu'on joue avec la vie de personnes, et on a vu, et tout le monde le dit, les autorités, les médecins, tout le monde dit que c'est extrêmement mauvais de rester plus de 3 semaines dans un abri PC. Il y a certaines personnes qui sont depuis plus d'une année dans ces abris PC. Je ne sais pas si vous avez vu, pour l'anecdote, la conférence de presse de la police qui s'est plaint d'être 3 jours dans des abris PC lors de la mobilisation, parce qu'ils avaient des puces de lit, parce qu'ils avaient fait une intoxication alimentaire, et que c'était un scandale. Alors là, c'était un scandale après 3 jours. Il y a des gens qui vivent dans ces conditions-là pendant plus d'une année, une année et demie, et qui ont en plus des traumatismes de parcours de vie, des fois, parfois très difficiles à porter. On arrive dans un nouveau pays, on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas, et on se retrouve dans ces conditions. Donc d'un point de vue de la santé. La deuxième promesse qui a été complètement bafouée par... qui est en voie d'être bafoué, pour être plus exact, par M. Poggia, c'est au moment de la fermeture de Franck Thomas, et là-dessus, je te demanderai juste de faire un petit point après. Au moment de la volonté de fermeture de Franck Thomas, donc le collectif s'est mobilisé avec les habitants, dont on a un des représentants qui est ici, contre cette fermeture. On a obtenu le fait que ce foyer ne soit pas fermé et que Poggia fasse la promesse de s'engager à reloger les habitants du foyer Franck Thomas. C'est 130 places, si c'est juste, de mémoire, 130 places, donc en surface, qui étaient condamnées et qu'on a réussi à sauver. Cet enjeu-là était très important pour nous, et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que Poggia est en train de revenir clairement sur sa promesse et prévoit de ne pas reloger, quasiment pas reloger, les habitants qui étaient là-bas. Mais peut-être, on a déjà fait une conférence de presse sur ce sujet, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais par contre, juste peut-être un point de situation depuis la dernière conférence de presse, puisqu'il y a des démarches qui ont été faites depuis.
Ouais, on a fait des démarches, c'est-à-dire on a fait une demande de relogement auprès du Conseil général, c'est-à-dire tous les habitants qui étaient présents au mois de juin, pour qu'ils puissent réintégrer le foyer après la fin des travaux, c'est-à-dire mi-février. Mais l'Hospice général a répondu par des lettres individuelles que certains requérants d'asile qui étaient au mois de juin, qui résidaient dans ce foyer, n'auraient pas le droit de réintégrer le foyer parce que leur statut ne leur permettrait pas, selon l'Hospice général, parce que, soi-disant que l'Office général n'est pas obligé de reloger les gens qui sont titulaires de permis F, permis C et permis B réfugiés. Donc la situation, on est là, donc la promesse, elle n'est pas tenue. Donc voilà où on en est en ce moment.
Merci.
Comme si l'hospice avait fait un petit nettoyage de sa population et de sa clientèle, parce qu'en fait, c'est ça aussi, le grand nettoyage général à l'hospice, quoi. Mm-hmm. Sur aussi les prestataires, vous voyez bien que ça touche tout le monde. Les prestataires de l'hospice, ils sont attaqués de toutes parts, à savoir est-ce qu'ils ont des comptes en banque, est-ce qu'ils ont un terrain à Babel-Oued, etc. Donc on voit que ça participe d'une politique globale de triage des services auxquels on a droit en tant qu'habitant de Genève.
Et donc nous, en tant que collectif, on lutte sur ces questions-là d'accueil digne des personnes. On arrive à fin 2016, on attendait avec impatience des projets de la part du gouvernement pour permettre aux gens de sortir des bunkers. On attendait des solutions réelles, à part celles qu'on a fournies. Tu reviendras, je pense, là-dessus, mais disons, les seules qui ont vu le jour, c'est celles que nous, on a fournies, le collectif. Donc on s'attendait à ça, et résultat des courses, on a 400 personnes. Et la question qui se pose pour nous, c'est pourquoi, deux ans après un mouvement pareil, pourquoi avec une baisse pourtant des arrivées des réfugiés, on n'arrive pas à fermer ces bunkers. Et là, je passe la parole à Julien pour peut-être ce qui nous semble être l'explication de ce phénomène.
Ouais, pour revenir là-dessus, on avait beaucoup parlé de manque d'anticipation à un moment de l'été 2015. On disait, mais il y a un problème. On a une anticipation quasiment nulle du fait que des réfugiés allaient venir en Suisse, alors qu'il y avait des guerres à peu près partout dans le monde. Donc là, on se disait, bon, ok, il y a un manque d'anticipation, maintenant, il faut que les projets tombent. Sauf que deux ans après, il y a eu deux gros projets. Il y a eu le foyer Appia, et il y a eu la rénovation de Franck Thomas, qui est encore en cours, qui va ouvrir là, dans le début de l'année. Et tous les autres projets, il y a eu, le dernier projet, c'est le centre de l'Étoile. Il était censé reloger les habitants de Franck Thomas, finalement, ça a été pour les mineurs. C'est un projet qui date de quasiment 4 ans en arrière, donc on ne peut pas vraiment parler d'un nouveau projet. Donc on a deux projets, c'est deux projets, le foyer Appia, c'est le collectif No Bunker qui l'a pointé et donné au Conseil d'État et à l'Hospice Général, qui ne l'avait pas du tout en tête, donc là ils ont pu faire un foyer d'environ 170 places, et ensuite, le foyer Appia, il devait être détruit, il a fallu un été de lutte à l'été 2016 pour réussir à obtenir sa rénovation et non sa destruction. Autrement, on ne trouve trace nulle part d'une simple ligne de budget prévue pour accueillir les personnes en exil à Genève. On trouve aucune annonce de projet d'importance pour loger les personnes à Genève. On trouve rien. Fin 2016, et confirmé dans le courrier début 2017, Pojal annonce, revient sur ce constat partagé. Du point de vue humain, on ne peut pas vivre durant des mois dans un abri de manière correcte. Bon, ça, là-dessus, on est tous d'accord, visiblement. Sauf que cette fois, on devrait pouvoir renoncer à deux abris courant 2017 et le reste au premier semestre 2018. Donc là, on a perdu deux ans. On ne sait pas pourquoi. Et on se dit, mais ce n'est pas un manque d'anticipation, là, ce qui se passe. Il y a une volonté politique. Et cette volonté politique, on peut la voir dans ce qui est mené actuellement à Genève. Nous, on pense réellement qu'il y a une volonté politique de faire de l'accueil et de la politique d'asile une politique carcérale. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a rien du côté du logement, par contre, du côté des prisons, il y a beaucoup de choses. On a eu la Brenna 2, on a eu les Dardelles qui arrivent, on a eu évidemment la directive journaux, on a les renvois qui explosent. Donc, pour vous donner un chiffre, on passe de 400 en 2013 à 1106 en 2015, donc c'est pas rien. On est à plus de 3 fois le chiffre de renvoi deux ans plus tard. Et on a la future construction, donc suite à la nouvelle loi sur l'asile qui a été acceptée en votation dernièrement, on a un nouveau centre de renvoi, ils appellent ça centre de départ, mais c'est un centre d'expulsion, qui va être construit sur un foyer. Donc on n'a même pas un projet de logement concret de la part des autorités. Le seul projet concret qu'on a, et là, alors là pour le coup, il y a des lignes de budget, il y a de l'argent prévu, et il y en a beaucoup, c'est de détruire 170 places de logement dans un foyer qui, selon la coordination asile notamment et les associations qui travaillent au plus près des personnes en exil, est un des moins pire du parc de l'hospice général, du parc de logement de l'hospice général, pour y construire un centre d'expulsion, un centre de renvoi. Donc, toutes ces différents éléments montrent qu'en fait, il y a vraiment une volonté de ne rien faire, parce qu'on essaie de vivre sur une illusion que le nouveau système avec les centres de renvoi fédéraux va résoudre la problématique de l'asile et de l'accueil. Tout comme, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, la Lex Blocher qui nous disait « Ah, avec Schengen, il n'y aura plus d'immigrants, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus rien », a fait fermer une série monumentale de centres d'accueil et d'hébergement dans tous les cantons suisses. Et évidemment, 10 ans plus tard, ça s'est pété la gueule. Parce qu'on sait très bien que c'est une illusion. On sait très bien des immigrants vont venir en Suisse. Nous, on souhaite que des immigrants viennent en Suisse. Mais visiblement, les autorités ont décidé de détruire définitivement toute perspective d'accueil un peu près digne des personnes en exil à Genève pour le transformer en une politique carcérale de l'immigration. Et ça, on refuse de l'accepter. Encore une autre preuve de ça. Durant l'été 2015, le collectif No Bunker trouve une maison vide qui appartient à l'État de Genève. Elle se trouve au 21 C route de Mérin. Une grande maison, une belle maison. L'occupe, donc rentre dans cette maison et dit à Podjam, mais pourquoi n'y logerons-nous pas des migrants ? Cette maison, Podjam nous a dit, ah oui, pas de problème, on va regarder, c'est une bonne idée. Évidemment, ça n'a pas marché. Elle est toujours vide. Elle est toujours là. Vous pouvez la voir. Cette grande maison qui pourrait loger un nombre assez important de familles de migrants, bah, au final, ça serait encore de la petite cuisine de l'hospice général, est toujours vide. C'est de loin pas le seul objet de ce type-là qui existe dans le parc de logement de l'État. Si ces maisons ne sont pas utilisées pour loger ni des migrants, ni d'ailleurs qui que ce soit, on voit bien de nouveau que c'est une volonté de ne rien faire et plus du tout un manque d'anticipation.
Juste sur cette maison, si je peux me permettre, l'argument a été donné au moment des faits. D'abord qu'il y avait de l'amiante et que c'était impossible d'y rentrer. Ensuite, qu'on devait loger une ONG à la fin 2015... qui devrait prendre. Elle est toujours vide, cette maison. Donc là, on n'est pas en train de parler de choses où ça n'a pas pu se faire ça. Non, il y a des mensonges très clairs de la part du Conseil d'État et M. Podger en tête sur les raisons de garder vide ces maisons et de ne pas les donner aux personnes qui en ont besoin. Pardon, je voulais juste préciser.
Et qu'est-ce qu'on sait encore, là, à l'heure actuelle, déjà ? On sait qu'il y a environ 400 personnes en bunker, on sait que c'est indigne, on sait qu'il faut que ces personnes puissent loger ailleurs qu'en bunker. On sait également que le foyer Appia va fermer. Il va fermer, a priori, courant 2017, pour construire une voie de l'autoroute, parce que c'est visiblement plus important que de loger des personnes en exil. Donc, cette date, l'État la connaît. Le nombre de personnes qui habitent dans le foyer Appia, c'est environ 160 places. Donc, un peu plus rempli, on pourrait parler entre 150 et 200 personnes dans le foyer Appia. Donc, l'État sait que courant 2017, il doit reloger les personnes du foyer Appia, au prix, autrement, de réouvrir un bunker. Enfin, qu'est-ce que ça, les autres solutions ? On n'a rien, ni pour vider les bunkers, ni pour reloger les personnes du foyer Appia. Les preuves s'accumulent à un tel point depuis 2 ans que c'est plus possible maintenant pour nous de rester sur cette même ligne et de parler d'un manque d'anticipation ou de dire « Ah, l'État est dépassé ». On a vraiment maintenant fait un constat complètement différent qu'on peut appuyer, qu'on appuie d'ailleurs dans le communiqué de presse que vous recevrez, et qui, à notre avis, est vraiment transparent, on va dire, aujourd'hui. Donc, je vais laisser la parole à Pablo pour la suite.
Oui, ce qui nous fait dire 2 choses. Un, d'abord, est-ce que M. Podgia est toujours en charge des questions de migration ou est-ce que c'est M. Maudet qui est en charge des questions de migration ? C'est une réelle question. Est-ce qu'il y a une politique d'asile et une politique d'accueil des gens ou est-ce que le seul but, c'est de les enfermer, de les expulser ? Pour l'instant, on doit bien le dire, on a l'impression que c'est M. Maudet qui est en charge de la question de la migration et que ce n'est pas Podgia. Et que Podgia, qui devrait être au cœur de cette action-là, qui est de reloger, de trouver des solutions de logement, d'aide, d'accueil, de nourriture, c'est son boulot. Et ça, ce n'est pas fait. Par contre, le boulot de créer des prisons, c'est fait. Et s'il y a encore quelqu'un en charge de l'accueil et de l'hospice général du côté du Conseil d'État, il faut maintenant qu'il sorte du bois et qu'il nous annonce un certain nombre de mesures pour prouver que ce Conseil d'État, ce n'est pas une imposture. Et qu'à la fois, il n'y a pas un discours public en disant « Oui, oui, alors c'est grave qu'on garde des gens dans des bunkers, mais qu'on ne met absolument rien, pas un centime dans un projet de construction de places d'accueil hors sol. J'appelle ça du hors sol parce que c'est, ça mérite à peine mieux, à part ça, ce qu'ils construisent. Ça, c'est une autre problématique, mais disons, des places hors sol pour les migrants. Et ça, c'est inadmissible, non seulement, mais en plus, c'est une imposture politique. Et il y a un vrai décalage entre le discours tenu politiquement et ce qui est réalisé sur le terrain. Et donc maintenant, pour nous, donc, comme l'a dit Julien, c'est en gros 400 personnes actuellement, plus 160 qui vont être logées, c'est 560 places qui doivent être trouvées courant 2017. Donc nos demandes, elles sont très claires. Nous, on appelle à manifester sur les revendications suivantes. Nous, on demande qu'il y ait une communication publique d'un plan de création de 560 places pour l'accueil des migrants d'ici la fin du mois. À la fin du mois, janvier, on veut avoir le plan du Conseil d'État qui dit, voilà, on va construire 560 places d'ici à 2018, comme ça. C'est comme ça qu'on va fermer les bunkers. Deuxième chose, on veut un calendrier précis de l'ouverture de ces places d'accueil. Ça ne suffit pas de nous dire qu'on va les construire, c'est quand est-ce qu'on va les construire et quand est-ce que ça va ouvrir. Et on veut un calendrier précis, aussi à la fin du mois. On veut la description précise des conditions de place prévues. Ça rappelle la petite chose que j'ai dit avant. Le foyer d'Apia, par exemple, a été ouvert, mais dans des conditions spécialement mauvaises et avec des mètres carrés extra. Ou bien sûr, le foyer Franck Thomas, on a très peur qu'il fasse des chambres à 4 ou 6 dans des espaces où ils étaient seuls avant, avec vraiment des conditions mauvaises. Donc on veut une description précise des conditions des places prévues. On veut la réintégration, bien sûr, des habitants du foyer Franck Thomas dans le foyer rénové dans des conditions meilleures ou égales à celles d'avant les travaux. Et on veut l'arrêt immédiat des projets de construction d'un centre fédéral d'expulsion, de nouvelles prisons ou d'arrestations à l'Office cantonal de la population, tant que ces autres choses-là n'ont même pas été discutées. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Sans réponse à ces demandes prévues et d'une preuve d'un engagement concret de la part du Conseil d'État, et du Conseil d'État, mais moi je tiens à dire particulièrement de M. Poggia, qui, on peut le dire, et je m'excuse de l'usage de ces mots, mais se fout de notre gueule depuis 2 ans et demi, parce qu'il faut à un moment donné dire comment ça s'appelle les choses. Il y a mensonge sur mensonge, imposture sur imposture. Donc sans un engagement et des preuves concrètes présentées publiquement à la population, on sera obligé de considérer que le Conseil d'État cherche intentionnellement à dégrader les conditions de vie des migrants sur place pour les dégoûter et les faire partir, et qu'en fait, on a un gouvernement qui maltraite les gens qu'il reçoit sur son territoire. Et ça, c'est pour nous évident que si le gouvernement a envie de montrer autre chose, il a jusqu'à la fin du mois pour poser ce plan et ses mesures de création de places d'accueil. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, on répondra. À moins qu'il y ait quelqu'un qui a envie de compléter ce qu'on vient de dire.
Tous les habitants, il a dit. Hein, ouais, des habitants. Par rapport à Franck Thomas, mais c'est ouais. Juste de bien comprendre cette chose.
Ouais, de tous les habitants.
De tous les habitants qui n'ont pas trouvé une solution.
Une autre solution.
Meilleure.
Tout à fait, oui.
C'est vrai que dans l'avenir, pour des gens qui sont là depuis plusieurs années. Ouais, y a des gens, on vise un programme de lutte bien plus tard qui sera une chambre à soi, quoi. Hein. Ouais. Je veux dire, voilà, moi j'ai 50 ans, lui je sais pas, mais on a envie de dormir tout seul, quoi. Hein, quand on n'est pas en couple. Donc ces choses-là aussi, il faudrait quand même que des gens comme M. Poggia et M. Maudet se rendent compte de l'infantilisation et du fait que un humain en Europe à l'heure actuelle. Il aspire quand même à dormir seul, quoi, quand il n'est pas de la famille. Donc ça aussi, il faudrait regarder aussi ces choses-là, qui sont peut-être du luxe pour certains, mais je ne crois pas, moi. En tant qu'enseignante, par exemple, je vois ce que ça donne au quotidien, les situations d'hébergement catastrophiques. Voilà.
Retrouve les podcasts des émissions sur Libradio www.libradio.org.